Et en Luc 2, 25 et 32. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 2, 25 et 32, nous allons lire ce passage. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Alléluia. Amen. Seigneur, te merci pour ta parole et merci, Seigneur, que tu nous donnes l'occasion ce matin de pouvoir venir dans ta présence et de recevoir à nouveau de ton Saint-Esprit. Je te prie, oh Seigneur, que tu agisses puissamment dans nos cœurs. On a besoin de toi. On a besoin de ta grâce, on a besoin de ta force, ta sagesse, ton amour. Alléluia, répandu sur nous ce matin et ouvre nos oreilles afin qu'on puisse écouter comme écoutent les disciples parce que, Seigneur, on veut à marcher dans tes voies et vivre de grandes choses. Merci pour toutes les grandes choses que tu accomplis dans ton Église. Merci, Seigneur, pour toutes ces prières exaucées. Et merci, Seigneur, que tu vas continuer de glorifier ton Saint-Nom. Amen! Ce que j'aime dans le texte qu'on a lu, qu'on vient de lire, c'est cette phrase qui dit « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. » Vous savez que ce temps-là, à Jérusalem ou à Israël, c'était pas le seul Siméon qui existait. Hein, c'est le même nom, si on veut, que Simon. Hein, c'est la même racine, origine que Simon. Il y avait plusieurs Simon ou Siméon et tout ça. Mais il y en avait un qui a connu une grâce particulière. Un qui a reçu quelque chose que personne, hein, nécessairement, il n'y a pas grand monde qui a pu vivre ça à ce moment-là. C'est qu'il a pu prendre Jésus dans ses bras. N'est-ce pas une grâce? Celui qui tient le monde dans sa main, il l'a tenu dans ses bras. C'est Jésus. C'est le Créateur, c'est le Sauveur. Tu montres tout ça. Il y a eu cette grâce qui lui a été accordée de justement pouvoir tenir Jésus dans ses bras. Et ce que me parle Siméon ce matin, ce que Dieu veut nous dire à nos cœurs aussi, c'est que, oui, il y a Noël, on fête Noël, mais le Seigneur veut que ce soit un vrai Noël dans nos cœurs. Et pas un Noël occasionnel, mais un Noël continuel. Alléluia. Qu'on puisse vivre des grâces, des actions et des touches particulières du Seigneur. Vous savez que Noël, pour la plupart des gens, c'est quoi? C'est les cadeaux. C'est les réunions de famille, c'est les temps de se réunir, c'est les temps pour certains, c'est des parties, tout ça. Pour les enfants, ben, c'est d'écrire au Père Noël. C'est de faire des choses comme ça. Donc, on ne pense pas tellement à Jésus durant cette fête. Pourtant, c'est Jésus, Noël. Hein, le fêter, c'est Jésus. Quand on vous fête, imaginez qu'on veut vous fêter. Puis qu'on invite de votre famille, puis qu'on invite des amis, puis qu'on fait un gros repas, puis tout ça. Mais la seule personne qui n'est pas invitée, c'est vous. C'est vous qu'on fête, mais c'est pas vous qui... On parle de toutes sortes de choses, on parle de la pluie, du beau temps, les gens rient, tout ça. Mais vous, vous êtes loin, puis on parle même pas de vous. Mais on est en train de vous fêter. C'est un peu la même chose qui se passe de nos jours avec Noël dans ce monde. C'est que le principal intéressé à cette fête n'est pas là. On a écarté ça. Et on a fait toutes sortes d'autres choses que ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse faire. Et pas juste une journée par année, mais continuellement. Alléluia. Jésus est notre fête. Jésus est notre roi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il veut que ce soit un Noël continuel. Je regardais les statistiques, puis on disait que quelqu'un parlait d'une érosion de la foi au Québec, mais pas juste au Québec, mais entre autres, une érosion de la foi. 34% des jeunes entre 18 et 34 ans se disent athées, se disent ne croire en rien, tout ça. Ça veut dire qu'une personne sur trois environ au Québec ne croit pas nécessairement dans le Seigneur et ne doute de toutes ces choses dans le spirituel. Toutes ces choses, on parle de 34%, puis on parle des jeunes adultes, 18-34 ans, qui vont enseigner leurs enfants et qui les enseigneront pas nécessairement. Vous posez la question aujourd'hui à un enfant de 7-8 ans, c'est qui Jésus? Il peut connaître l'iPod, il peut connaître toutes les choses électroniques, il peut connaître Facebook, tout ça, mais parle de Jésus. C'est étranger à lui, parce que les gens... quelqu'un me disait qu'à l'école aujourd'hui, peut-être quelqu'un peut le confirmer ici, il n'y a plus de cours de sciences religieuses. On appelle ça, comme on dit, l'universalité. Comment? Éthique et culture religieuse. Mais quelqu'un me disait qu'à leur école, ils appellent ça l'universalité des cultures. On est rendu plus loin même que les termes religieux ou tout ça. On va leur parler de toutes sortes de cultures, on va leur parler de toutes sortes de choses qui existent dans ce monde, mais on leur parlera pas de la vérité. On va dire, oh, t'as pas le droit nécessairement, je pense que même à l'école, ils n'ont plus le droit nécessairement d'avoir des croix ou quelque chose comme ça. On interdit de parler de Jésus, mais on est prêt de parler de toutes sortes d'autres choses qui viennent d'ailleurs. Et les gens grandissent comme ça. Vous connaissez, pour ceux qui sont plus vieux ici, il y en a quelques-uns de mon âge. Vous connaissez la grande noirceur, ce qu'on appelait la grande noirceur. C'était quoi la grande noirceur? C'était le temps où, après la guerre, que Maurice Duplessis était au pouvoir, puis que c'était la religion avec l'État. Et la religion dominait autant que l'État. Il y avait une domination de la religion. Ça, on a parlé cette période d'une quinzaine d'années, la grande noirceur. Mais après, la grande noirceur est arrivée la révolution tranquille. Dans les années 60-70, ça veut dire qu'on a mis la religion de côté, on a entassé tout ça, on ne voulait plus rien savoir, puis on est allé dans l'autre extrême, on s'est ouvert à toutes sortes de choses, le bouddhisme, l'hindouisme, les sciences occultes, la magie blanche et toutes ces choses, l'humanisme. Mais on a mis toutes les autres choses de côté. Et aujourd'hui, le monde s'ouvre à quoi de plus en plus? Les choses qui viennent de l'extérieur. L'islamisme. De plus en plus, vous savez, le monde est conscient que l'islam est là. Les musulmans. N'avez-vous entendu parler? Un peu? Beaucoup? Il y a 20-30 ans, on ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, on est passé de la grande noirceur à une plus grande noirceur qui s'en vient de plus en plus. L'instauration de la charia et tout ça, les lois islamiques et la vie, tout ça dirigé à travers l'islam et tout ça. Vous savez que dans le monde, les musulmans représentent 22% de la population mondiale. Et que ça va grandir de plus en plus, ça va devenir de plus en plus présent. Ce qu'on n'entendait pas parler il y a 20-30 ans maintenant. On en parle de plus en plus, puis on va en parler de plus en plus. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, il va y avoir des lois et des règles qui vont aller contre certains principes et qui vont instaurer ce qu'on appelle la charia, tout ça, tout simplement des règles, des principes selon l'islamisme. Et toutes ces choses s'en viennent. On aurait dit ça il y a quelques années, on aurait dit, oh, tu dis ça, mais gars, t'es capoté, on ne vivra pas ces choses-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend parler? Un peu partout, avec les accommodements raisonnables, avec toutes ces choses, c'est tout ce système qui est en train de se mettre en place et qui vient aussi de l'ennemi et tout ça. Nous, on a Jésus. Amen. L'islamisme est en train de faire ce que l'Église devrait faire. Multipliez-vous. Répandez-vous, l'avait dit le Seigneur. Allez parmi les nations, tout ça, et faites des disciples. L'islam est en train de faire ça. L'islam est en train de se répandre partout, à travers le monde et tout ça. Et c'est à nous qui est donné de faire des disciples. Amen. Alléluia. L'ennemi est l'imitateur. Il fait ce que l'Église devrait faire, dans le fond, mais du côté de avec des mauvaises doctrines et tout ça. Mais nous sommes appelés, enfants de Dieu, à être des témoins de Christ, de vivre ce vrai Noël, pas juste une fois par année, mais toute l'année, d'être des témoins du Seigneur Jésus. Amen. Hallelujah. Vous savez, dans le temps de la naissance de Jésus, c'est pas tout le monde qui était conscient de la naissance de Jésus. C'est pas tout le monde qui était impressionné par la naissance de Jésus. Attendez un peu. Ça revient. C'est pas... Très peu de gens étaient au courant de la naissance de Jésus. Il y avait les mages, les bergers, nommez-en d'autres, qui étaient conscients de la naissance du Sauveur. Il y avait les mages, les bergers, les parents de Jésus. Il y avait aussi Siméon, puis il y avait aussi... Ça fait pas beaucoup de personnes, ça, qui ont été justement au courant. Ça n'a pas impressionné nécessairement la naissance de Jésus. Ça n'a pas bouleversé les gens autour et tout ça. La plupart ignoraient même la naissance de cet enfant. Et quelqu'un leur aurait dit, c'est une naissance comme un autre et tout ça. On n'attendait pas nécessairement. Mais certains ont reçu une grâce spéciale de pouvoir vivre cet instant de la venue du Sauveur dans ce monde, de prendre conscience de cette réalité. Un jour, Anne a vu justement le Messie. Il y avait Siméon, mais il y avait Anne aussi. Imaginez cette femme qui a commencé à parler de Jésus autour, puis à dire, voici, c'est celui, le Messie, la délivrance. Qu'est-ce que vous pensez qu'un peu les gens ont pu dire sur Anne, qui avait 84 ans, qui était dans le temple, qui restait dans le temple? Elle est en train de capoter un peu là, hein? Elle nous parle d'un enfant, d'un bébé qui naît, qui serait le Messie, tout ça. Elle a dû passer un peu pour un peu bizarre. Parce que pour la plupart du peuple, Jésus, c'est pas ainsi qu'il ferait son entrée. Que le Messie allait venir pour régner. Et souvent, ils pensaient que c'était régner, c'est prendre l'autorité sur les Romains, tout ça, puis dominer. Et c'est pas nécessairement comme ça, ça s'est passé. Et de nos jours, c'est la même chose. Qui prend réalité? Qui prend conscience, justement, de la venue du Messie de Jésus à cette fête que nous sommes présentement, qui nous parle, qui devrait nous parler, justement, de la venue du Messie aujourd'hui? Tous les gens aiment le plaisir plus que Dieu, hein? S'il n'y a pas de fun ici, on s'en va d'ici. C'est un peu la pensée des gens. S'il n'y a pas de fun, on s'en va. Et Noël a perdu ce sens. C'est devenu plus économique et tout ça. A perdu le sens réel de la réalité. Vous savez que Noël, en français, c'est à peu près la seule langue où que Noël ne veut pas nécessairement dire ce que ça veut dire. C'est compliqué, hein? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, mais que tu dis Noël, quelqu'un qui connaît pas Jésus, tout ça, l'histoire. Et tu lui dis Noël. Ça veut dire quoi, Noël? Ça veut pas parler nécessairement de la naissance de Jésus. Parce que le mot le dit pas. Mais dans toutes les autres langues, ça parle de la naissance. En anglais, c'est Merry Christmas, qui veut dire joyeuse messe de Christ. En allemand, ça veut dire la nuit sacrée. En espagnol, c'est Feliz Navidad, qui veut dire joyeuse nativité. En italien, c'est bonne fête de nativité. Si on le traduit en grec, c'est naissance de Christ. Mais en français, c'est Noël. Et ça vient d'où, Noël? Et la plupart des gens ne savent pas d'où vient Noël. Parce que c'est né, à un moment donné, de certains pensent que c'est la contraction du mot Emmanuel. En grec, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est devenu Noël. Noël. Et tout ça. Ou c'est l'ajout de deux mots, hein, qui parlait d'une naissance avec elle, qui nous parle de Dieu. Noël, mais on n'est pas sûr de l'existence ou de l'origine du mot Noël. Noël, pour les gens, c'est Noël. C'est un temps de bien des choses, mais pas nécessairement qui nous parle de la naissance de Jésus. Et même le 25 décembre, vous savez d'où ça vient? Bon, bien, vous êtes connaissants. Vous savez que Jésus ne serait pas né nécessairement à la date qu'on dit qu'il est né. Hein? On parle de 2017, on est 2017 après la naissance de Jésus. Hein? Mais il serait né 7 ou 5 ans avant la date, parce qu'on aurait fait une erreur sur la date de sa naissance. Un certain monsieur Denis le Petit, vous ne connaissez pas, ça fait longtemps, il aurait fait une erreur sur la naissance. Fait que quand ils ont commencé un nouveau calendrier, tout ça, Ils ont commencé à une date qui ne serait probablement pas la date nécessairement que Jésus est né. Le 25 décembre, c'était pour concurrencer une fête païenne qui avait été instaurée par l'empereur Aurélien en 274. C'était le culte à Mitra qui parlait d'une divinité de la lumière et tout ça. Donc, on fêtait cette divinité de la lumière. Mais Constantin, des années plus tard, et tout ça, a voulu faire opposition au paganisme puis instaurer une date, le 25 décembre, pour fêter la venue du Messie, celui qui est véritablement la lumière. Et c'est comme ça qu'est né le 25 décembre. Donc, la date exacte, on ne le sait pas nécessairement, et même le nom de Noël, pour nous, ne donne pas nécessairement la réelle signification de tout ça. Et les chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus au début. Durant les 4 premiers siècles, les chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus. On voit pas ça dans les épîtres et tout ça. Je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, parce que, au contraire, c'est un temps de se rappeler que Jésus est venu dans le monde. Et justement, vu que les gens ont une plus grande ouverture, disons, ils sont plus prêts à entendre certaines choses, c'est une occasion pour nous de saisir, de parler de Jésus qui est pas resté dans le berceau, mais qui a grandi. Puis qui est pas resté dans le tombeau non plus, puis qui est ressuscité. Amen? C'est une occasion pour nous d'être des témoins aussi de cette réalité. Et Siméon a vécu cet instant de prendre Jésus dans ses bras. Et nous aussi, nous avons cette grâce particulière, enfant de Dieu, c'est pas d'avoir Jésus dans nos bras, c'est d'être dans les bras du Seigneur. Amen? Nous avons accepté Jésus et maintenant nous sommes dans les bras de Christ. Alléluia! Nous avons ce privilège et cette bénédiction. Amen? Siméon nous parle de cette grâce qui nous est accordée. Et j'aimerais juste qu'on regarde trois aspects de la vie, qu'est-ce qu'a vécu Siméon, qui nous parle aujourd'hui justement de ce que Dieu a voulu lorsqu'il est venu dans ce monde. Pourquoi Jésus est né dans ce monde? Pourquoi il a grandi? Pourquoi il est mort, il est ressuscité? C'est pourquoi, on l'a vu la semaine dernière? Pour naître de nouveau, amen? C'est connaître la nouvelle naissance. Mais Siméon nous parle aussi de ce que le Noël pour nous devrait être, ou tous les jours de l'année. Premièrement, la Bible dit que cet homme était juste et pieux. Cet homme, pourquoi il a vécu toutes ces choses? La Bible dit que cet homme était juste et pieux. Cet homme marchait selon la justice de Dieu. Et c'est pas dans des temps faciles. Parce qu'en Israël, dans ce temps-là, c'était la domination romaine. C'était la fureur d'Hérode qui envoyait tuer les enfants à bas de 2 ans. Il y avait de la violence, il y avait de la fraude, il y avait de la corruption. Zachée faisait partie de ça. Hein, il faisait de la fraude à un certain moment donné. Un jour, le gouverneur n'a pas aimé que Jean-Baptiste dise « Tu ne t'es pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? On lui a tranché la tête. Donc, c'était pas des temps faciles. Mais dans ce temps-là, Siméon était un homme juste et pieux, c'est-à-dire qu'il craignait Dieu. Alléluia! Il craignait Dieu. Il a été fait une grâce particulière parce que cet homme était juste et pieux. Amen? Et c'est ce que Jésus est venu faire, nous justifier afin de marcher dans la piété et selon la piété. Et souvent, ce mot nous fait peur, la piété, parce que ça nous ramène à des pensées religieuses. Ah, pieux, ça veut dire quoi, la piété? Attention, je vous pose des questions ce matin. Parce que j'ai plus de salive. On est? Être en relation avec Dieu. En prière et tout ça, c'est ça la piété. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une définition de la piété? Piété, c'est l'amour. Est-ce qu'il y en a d'autres? Faire la volonté de Dieu. Amen. La piété, c'est de vivre, vous l'avez tous, dans un sens, mais c'est vivre une relation intérieure avec le Seigneur. Vivre ça d'une façon pratique. Quelqu'un de pieux, exerce-toi la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété est utile à tout. Ayant les promesses présentes et les promesses à venir. Donc, la piété, c'est cette relation que nous avons avec le Seigneur que nous mettons en pratique. Nous pratiquons la piété. Nous sommes justifiés pour pratiquer la justice de Dieu. Nous sommes justifiés pour marcher dans la piété, pour s'éloigner de l'impiété. pour demeurer dans ce qui est bien. Il dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et cet homme, en son temps, était pieux. Cet homme marchait avec Dieu. Il était séparé du mal. Et c'est ce que le mot grec veut dire, se tenir dans le bien, craindre Dieu, agir selon la sagesse. Donc, c'est la manifestation extérieure de notre relation intérieure avec Dieu, la piété. C'est que ça se voit autour. Et c'est ce que Dieu nous appelle. Et c'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Et le vrai Noël, c'est ça. C'est de vivre à l'intérieur de nous cette naissance, d'être justifié par Christ. Alléluia. Pour marcher selon la piété tous les jours de notre vie. Alléluia. Tous les jours de notre vie. Christ est ma vie. Alléluia. Et Dieu nous accorde des grâces particulières. Et Dieu nous donne des touches particulières. La Bible dit dans le psaume 16, verset 3, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Alléluia. Cet homme n'a pas eu une grâce au hasard. Il n'a pas été dit par l'Esprit de Dieu, rends-toi au temple. Et de te trouver en face de du Créateur de l'univers et de le prendre dans ses bras. Cet homme était juste et pieux. Alléluia! Il a été fait des promesses particulières à Siméon. Et ça me parle, enfant de Dieu. Alléluia! C'est ça le vrai Noël. C'est connaître Christ, avoir cette relation et vivre selon la piété tous les jours de notre vie. Et à Noël aussi. Et qu'à Noël, c'est pas le temps d'un break spirituel. C'est pas le temps de dire, ben là, je peux me permettre certaines choses. Là, je peux me permettre certains excès. Là, je peux me permettre de faire certaines choses. Là, je peux me permettre de me livrer ou de m'enivrer, tout ça. C'est pas un temps de break spirituel. C'est un temps, justement, au contraire, d'être la lumière dans ce monde. Alléluia! De briller parmi les nations, parmi les familles, parmi les gens qui nous entourent. Souvenez du temps du carême. C'était quoi le carême? C'était 40 jours sans manger de chocolat. C'est quelque chose de même? Qu'est-ce qui arrivait au bout des 40 jours? Ah! On se bourrait! On n'est pas dans une religion! Que le temps des fêtes, c'est le temps qu'on peut faire un break. Oh, maintenant, notre carême est fini. On peut se bourrer pour un temps. On va revenir puis mettre notre habit de piété là, quand les fêtes seront terminées, tout ça. Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, des chrétiens non périodiques, mais véridiques. tous les jours, alléluia. Nous sommes appelés à revêtir Christ. Amen. Revêtir Christ. Revêtir Christ. Vous savez, des fois, nous, on a des vêtements qu'on porte une fois de temps en temps, dans des occasions, deux, trois fois par année, puis on met dans le placard et tout ça. Et on peut pas en être ainsi avec les vêtements du Seigneur. Dieu nous donne une garde-robe. Il dit des vêtements de louange, des vêtements du salut, un revêtement de puissance. Oh, on a des beaux complets, de la miséricorde, de la bonté, de l'amour du Seigneur. On a toutes ces choses, de la justice de Dieu, le manteau de la justice de Dieu. Dieu nous donne cette garde-robe. Pourquoi? Pas afin de le sortir du placard deux ou trois fois par année. Afin que toute l'année, nous puissions porter ces vêtements et qu'ils puissent justement servir. Comme les vêtements qu'on met toute la semaine. On dit on peut les user, tout ça. Mais les vêtements du Seigneur doivent être usés aussi. Amen. On doit les porter chaque jour de l'année encore plus dans le temps des fêtes pour être un témoin du Seigneur et pas se justifier que parce qu'on est dans le temps des fêtes, on peut se permettre certaines choses. Au contraire, il dit, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Nous avons l'occasion de mettre ces vêtements. Amen. De revêtir Christ. Alléluia. Et ça, encore plus, durant le temps des fêtes. Amen. On continue. Des fois, vous savez, on se justifie dans la parole de Dieu pour une certaine conduite. comme pour la boisson. Ça va, on entend dire des fois qu'on peut prendre de la boisson, c'est pas interdit. Jésus a changé l'eau en vin. Mais j'aimerais vous dire que Jésus n'a pas quitté la noce avec nez rouge. Jésus n'a pas quitté, il en a pris un coup. Jésus n'a jamais changé l'eau en vin pour encourager ou justifier la prise de la boisson. Si vous avez cette pensée, c'est mieux de l'enlever. Parce que Dieu n'a jamais justifié de prendre de la boisson. D'ailleurs, c'est par l'Esprit de Dieu, de Christ lui-même, que Paul a dit aux Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la... » C'est Christ qui a dit ça. C'est pas juste Paul à des hommes. C'est Christ qui a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » Et c'est Christ qui a dit à travers Paul aux Romains, « Il est bon de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Parce qu'un chrétien qui marche selon la piété pense aux autres. Il pense pas juste à lui. Il pense à ceux qui l'entourent. Est-ce que je vais être une occasion de chute ou de faiblesse ou de scandale? Est-ce que quelqu'un qui est moins plus faible dans la foi et qui me voit, moi, un chrétien de longue date, prendre un verre, est-ce que ça le justifiera pas de prendre un coup et de dire, il n'y a rien là? Il dit, pensez aux autres. Pensez aux autres aussi. Il est bon de ne pas prendre de vin, de s'abstenir, de ne pas s'enivrer, de ne pas se justifier même sur certains passages. Pas parce que ton auto est marqué 200 km à l'heure dessus que tu dois rouler 200 km. Ah, il est marqué 200, 220, moi, au fond. Il y a des lois, il y a des règles, il y a un code de sécurité. Il faut que tu penses aux autres. Et que tu conduis selon ce qui est sage. Et c'est la même chose que le Seigneur nous dit. T'es pas là pour te justifier. T'es là, t'es justifié. T'es pas là pour te justifier de marcher dans l'impiété. T'es justifié pour marcher dans la piété. Il était juste et pieux. Il était juste et pieux. Il servait le Seigneur dans des temps pas faciles et tout ça. Il attendait la consolation d'Israël. Alléluia! Siméon a vécu cette grâce particulière parce que cet homme, malgré l'impiété qui régnait autour, malgré la noirceur, la grande noirceur, pouvait vivre dans, selon Dieu. Et Dieu lui a dit, « Va au temple, j'ai quelque chose pour toi. » Alléluia. Merci Seigneur pour les justes, pour ceux qui marchent dans la piété. Dieu a des choses spéciales. Il attendait la consolation d'Israël. Ça veut dire qu'il croyait aux promesses. Il croyait à la venue du Sauveur. Il croyait aux prophéties. C'est un homme de foi. Siméon est un homme de foi. Pas un homme de foi de 100 ans. Mais il croyait, il attendait en la promesse du Seigneur. La plupart des gens, à ce temps-là, avaient oublié ou mis de côté, ou dire, ah oui, merci, il va venir un temps, un jour. Oh, il va venir. On avait mis ces choses de côté. Mais lui espérait, il attendait, il connaissait les Écritures, il savait que le Seigneur, il gardait la foi. Alléluia. Dieu honore ce genre de foi. Dieu honore le genre de foi qui croit à sa parole, qui croit aux promesses du Seigneur et qui ne dévie pas des promesses. Oui, il attendait la consolation d'Israël. Et nous aussi, nous devons avoir cette espérance et cette foi dans le Seigneur. Il a été fait cette révélation. Tu ne mourras point que tu aies vu le Fils de Dieu, que tu aies vu le Messie. Une promesse lui a été faite. Et c'est pas dit quand cette promesse lui a été faite. Un mois, un an, 10 ans avant, on ne sait pas. Tant pis, pas grave. La foi n'a pas de temps. La foi n'espère pas juste pour un temps. Crois pour un an. Crois la parole de Dieu pour un mois. Crois la parole de Dieu pour maintenant. Si ça marche pas, ça fonctionne plus. La foi dépasse le niveau des temps et des circonstances. Et c'est pour ça qu'on a la foi, enfant de Dieu. C'est pour ça que le juste vivra par la foi. Parce que tu ne vois pas. T'as besoin de la foi parce que tu ne vois pas les choses qui sont là que Dieu veut accomplir. Ils sont pas visibles encore. Et c'est pour ça que ça nous prend la foi. Quand il est visible, as-tu besoin de la foi? Oh, j'ai une maladie, je suis guéri de la maladie. Parfait. J'ai plus besoin de la foi pour cette maladie-là. Je suis guéri. J'ai la foi, le Seigneur va me guérir. Oui, mais t'es guéri. T'as pas besoin d'une grande foi. La foi, c'est pour les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas. Il attendait avec patience et persévérance la consolation d'Israël. Il voyait rien, mais il savait. Et Dieu lui a dit, tu ne mourras pas que tu vas vivre ces choses. Vous savez, la foi de Siméon a été connue autour de lui, parce que Luc nous parle de Siméon. Mais Luc n'était pas un témoin oculaire. Luc s'est renseigné sur les gens autour, et c'est ce que nous dit Luc 1:1-4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il a fait des recherches sur ce qui s'est passé. Puis on lui a dit, tu sais, il y a un certain Siméon, que lui est un homme juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Tu sais, il est allé au temple, et là, il a pris Jésus. Il a été un témoin dans son temps. Alléluia! Il a été un témoin au point qu'on a rapporté ce qu'a fait Siméon. Alléluia! Amen! Est-ce que notre foi va nous survivre? Est-ce que notre foi va nous survivre? Est-ce qu'après notre départ ici-bas, on va parler de notre foi? Est-ce qu'on va parler de notre confiance en Dieu? Cette personne est une personne qui avait une confiance, qui croyait en Dieu, qui persévérait, ou plutôt de nos doutes, de notre méfiance, de notre manque de confiance dans le Seigneur. Est-ce que notre foi va nous survivre? Siméon, on parlait de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait. Il attendait la consolation d'Israël. Il y a une foule de témoins dans Hébreux 11 qui nous dit que tous ces témoins étaient des hommes de foi qui se sont démarqués des autres. Et même l'auteur dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de Samuel, de David, des prophètes, et ainsi de suite, qui vaincurent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éloignèrent la puissance, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent veillés à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Oh, le temps me manquerait pour parler de tous ces gens qui ont manifesté cette foi. Et c'est pas une liste exhaustive. Elle se complète encore, cette liste. Nous faisons partie de cette liste. Et nous devons faire partie de cette liste aussi, que nous sommes des personnes qui croyons en la parole de Dieu, qui croyons aux promesses de Dieu, qui ne se relâchent pas. On ne croit pas pour un mois, on ne croit pas pour un an. Le juste vivra par la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce qu'il mentionne un temps précis ici? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois durant le prochain mois? Est-ce que tu crois pendant quelque temps? Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia! Il n'y a pas de temps. Ça me plaît à croire et à continuer dans la foi. Amen! Jusqu'à l'exaucement des promesses du Seigneur. Hébreux 6, 12. Dit ceci. Lisez-le. Amen. Gloire à Dieu. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Et Français courant dit ceci, ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. ceux qui croient avec persévérance. Il n'y a pas de temps. Il attendait la consolation. Alléluia. Jésus, oh, ne dira jamais. Ah, tu peux cesser de croire. Tu peux arrêter de croire maintenant là, à une des promesses. Parce que premièrement, je ne l'accomplirai pas. Ça te sert à rien de continuer à prier pour ça. Tu n'es pas obligé de croire. Tu peux arrêter. Est-ce que Dieu, Jésus, peut dire ça? Jésus a dit l'inverse. Gens de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Cesse d'être incrédule. Cesse de refuser de croire et tout ça. Mais crois, crois seulement, crois simplement. Alléluia. C'est ce que Dieu va nous dire. Il nous reprochera jamais de croire et de mettre notre foi dans sa parole que Dieu va agir, que Dieu va manifester sa gloire. Et c'est parce que Siméon a cru et c'est parce qu'il était juste et pieux que sa foi a été honorée. Et qu'il a pu vivre une grâce particulière, comme ont vécu les mages, comme ont vécu Anne, comme ont vécu les parents de Jésus, tout ça. Ils ont reçu quelque chose de particulier. Alléluia. Et peut-être vous dire ce matin, oui, c'est particulier, on peut pas vivre ces choses. Non, c'est sûr qu'on pourra pas prendre Jésus dans nos bras aujourd'hui. Mais les grâces du Seigneur ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre aussi, à faire l'expérience de sa présence et sa bénédiction. Alléluia. De vivre ces touches particulières de la part du Seigneur. Est-ce que vous attendez la consolation d'Israël? La consolation du Seigneur. Est-ce que vous attendez comme Siméon? De la part du Seigneur, la consolation. Parce que Dieu est un Dieu de consolation. Quand vous recevez une révélation de la parole de Dieu, est-ce que c'est une grâce particulière? Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous êtes touché par une parole que Dieu vous révèle, n'est-ce pas une grâce particulière? Alléluia! Quand vous êtes en adoration spontanée puis vous rentrez en extase, n'est-ce pas une action particulière? Lorsque Dieu nous utilise à travers ses dons, tout ça, la manifestation de ses dons, n'est-ce pas une touche particulière du Saint-Esprit? Alléluia! Quand nous recevons de la part du Seigneur, quand on ne sait pas des fois pourquoi, tout d'un coup on est saisi d'une joie ineffable, n'est-ce pas une touche particulière du Seigneur? Alléluia! Pour ses enfants, et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre aussi. C'est ça, le vrai Noël. C'est de toucher le salut, comme Siméon a touché le salut. C'est de pouvoir vivre ce salut, c'est de pouvoir être saisi par l'Esprit de Dieu. Comme il dit, l'Esprit Saint est sur lui, le Saint-Esprit est sur lui. Et c'est pas par hasard que le Saint-Esprit est sur lui et qu'il a reçu ses beaux cadeaux de Noël, si on peut appeler ça comme ça. L'Esprit de Dieu l'a averti, l'Esprit de Dieu lui a donné des révélations, l'Esprit de Dieu l'a dit, l'a poussé. Il a prophétisé sur Jésus. Il a prophétisé sur Joseph et Marie. Il était le Saint-Esprit sur lui. Ça, c'est un vrai Noël. Quand le Saint-Esprit est sur nous, quand le Saint-Esprit nous avertit, quand le Saint-Esprit nous pousse, quand le Saint-Esprit se sert de nous, quand on est entre les bras du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! L'Esprit de Dieu était sur lui. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Il est prêt à mourir. Parce que le Saint-Esprit est sur lui. Pas parce qu'il y a un esprit suicidaire. Pas parce qu'il est tanné de la vie. Pas parce qu'il a le mal de vivre, pas parce qu'il vit toutes sortes d'échecs et de problèmes dans sa vie. Je veux mourir! Je veux mourir! Pas comme Élie, lorsqu'il a fui, puis il a demandé la mort, je veux mourir! Pourquoi il veut mourir? Parce qu'il échoue! Parce qu'il sent avoir l'échec dans sa vie, il sent avoir perdu, d'avoir fui devant Jézabel, il veut mourir! Parce qu'il se sent mal! Il n'est pas question qu'il parte comme ça! Siméon a dit, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, parce qu'il est en paix. Alléluia! Il a l'Esprit de Dieu. C'est pas la même façon de vouloir quitter. C'est pas comme il est. Et Dieu, tu l'as amené à la montagne. C'est pas comme ça que tu vas mourir. Tu veux mourir? Tu mourras pas. Il n'est pas mort. Il a voulu mourir, il n'est pas mort. Il a été emmené dans des chariots de feu vers le Seigneur. Alléluia, quel départ merveilleux. Cet homme qui voulait mourir un jour. Ah, oh, je suis pas mieux que mes pères. Ah, oh, j'ai échoué tout ça. Non. Tu ne mourras pas. Pas comme ça. Mais comme Siméon, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Parce que j'ai la paix d'avoir accompli la volonté de Dieu. Parce que j'ai la paix d'être dans le plan de Dieu. D'être en communion avec Dieu. Pas comme Judas, qui allait se pendre. Il voulait mourir. Judas voulait mourir. Judas s'est suicidé. Pourquoi? Il était plein de remords, plein de regrets, plein de faillites dans sa vie, tout ça. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on parte. Dieu veut qu'on parte avec cette paix dans notre cœur. Alléluia. Il veut qu'on parte avec cette approbation, justement, du Seigneur sur nos vies. Et qu'on doit se relever, enfant de Dieu, quand on tombe. On doit se relever. Cette fois, le juste tombe, il se relève. Relève-toi, relève-toi. Oh, Élie, lève-toi. L'ange l'a frappé dans le côté. Réveille-toi. Mange, puis marche. Parce que c'est pas comme ça que tu vas mourir. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Alléluia. Parce que je suis en paix. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez, des fois, on dit, on tombe, puis on reste tombé. Le Seigneur, le problème, c'est pas de tomber. C'est de pas vouloir se relever. On peut pas dire ce matin, je ne peux pas me relever. Personne ici qui est tombé ou qui tombe dans certaines choses ne peut pas dire, je ne peux pas me relever. Amen. Parce qu'on peut tout se relever. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux me relever. Mais des fois, c'est parce qu'on veut pas se relever. Des fois, on veut pas se relever. On préfère dormir. Parce que dormir nous rend inconscient. Dormir nous empêche de voir la réalité des choses. Dormir comme Élie a dormi. Il voulait plus faire face à ses responsabilités, tout ça. Il voulait plus... C'est ça un peu quand on est en état dépressif. On veut dormir. Pourquoi? Parce qu'on veut pas, on veut fuir la réalité. On veut fuir les choses autour. On n'est pas prêt à faire face à certaines choses qui nous entourent. Oui, on va connaître des temps de déception. Oui, on va connaître des blessures. Oui, on va connaître ce qui peut sembler des échecs et tout ça. Mais Dieu veut qu'on se relève. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, notre élément. Réveille-toi. Il dit pas qu'on est mort. Il dit pas qu'on est mort aux Éphésiens, parce que c'est des chrétiens. Mais il dit qu'on dort parmi les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Quelle différence entre quelqu'un qui dort et un mort? Il n'y a pas une grande différence entre quelqu'un qui dort et un mort. Parce que les deux sont inconscients de ce qui se passe nécessairement autour. Sont un peu indifférents de ce qui se passe autour. Mais le Seigneur veut qu'on puisse se relever, enfant de Dieu. Le Seigneur veut qu'on puisse se réveiller. Il dit, relève-toi d'entre les morts. Tu as la faculté de te réveiller. On prie pour un réveil. Et souvent, c'est ça qui arrive. Et c'est correct de prier pour un réveil. Mais souvent, le réveil, quand on prie le réveil, ça nous exclut. On prie pour un réveil. Seigneur, fais que les inconvertis viennent à toi. Seigneur, fais que les rétrogrades reviennent à toi. Seigneur, fais que ton esprit agisse dans les cœurs et convainque toutes les personnes. Seigneur, fais ceci, fais cela. C'est correct. C'est des bonnes prières. Mais on est où là-dedans? On est où? Parce que le réveil est supposé être là. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Il parle pas de nous, de seulement prier pour les autres, mais pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. La faculté nous-mêmes de nous réveiller, la faculté de nous relever, la faculté de se lever afin d'être éclairé. Réveille-toi, lève-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Christ va te montrer le chemin. Christ va te dire quand faire ceci. L'Esprit de Dieu va être sur toi. Alléluia. C'est ça le réveil. Oh, on voit un réveil, on voit un réveil. Oh, j'ai pas vu de réveil encore. Mais Seigneur, il dit, tu l'as le réveil. Le réveil, c'est toi, c'est dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Tu peux te relever. Tu peux te lever d'entre les morts. Et Dieu nous appelle à ça. Alléluia. Et pas juste dormir ou être nostalgique. Je me rappelle du réveil en 1970. Oh, c'était merveilleux. Je me rappelle du réveil en 1980. Oh, c'était merveilleux. Je me rappelle du réveil en 1990. Oh, c'était merveilleux. Ouais, mais c'est merveilleux. Mais là, là, aujourd'hui, là, aujourd'hui, en 2017, le 23 décembre, est-ce qu'on vit ce réveil dans nos cœurs? Sincèrement, est-ce qu'on vit ce réveil dans nos cœurs? Si c'est non, ben, Seigneur te dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Parce qu'il y aura toujours des temps, d'épreuves. Il y aura toujours des temps de blessures. Il y aura toujours des temps où que des gens vont nous faire des choses, des injustices. Si à chaque fois, on veut dormir, si à chaque fois, on veut se retirer, si à chaque fois, on veut s'éloigner, eh bien, on va toujours tomber. On va toujours s'éloigner. Parce que ça va arriver encore et encore. Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur du corps de Christ. L'important pour nous, enfants de Dieu, alléluia, c'est de laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. C'est de se réveiller. Vous savez, avez-vous déjà fait un cauchemar? Puis vous savez que vous êtes dans un cauchemar. Puis que vous dites, faut que je me réveille. Moi, ça m'est arrivé quelquefois. J'étais dans un rêve, je savais que j'étais dans un rêve, ça allait mal, j'ai dit, faut que je me réveille. Faut que je me réveille, faut que je me réveille. Puis ça marchait. Puis là, tu te réveilles. Oh! C'est un cauchemar. On a la faculté de se réveiller. Et pour rester dans un cauchemar continuel, on a la faculté de se réveiller et de se relever, puis de dire, oui, Seigneur, alléluia, je veux pas vivre parmi les morts. Je veux pas agir comme les morts. Je veux pas passer pour mort. Je veux au contraire être comme Siméon, juste et pieux, qui attendait la consolation que l'Esprit de Dieu était sur lui, et avoir cette confiance dans mon cœur que j'ai combattu le bon combat, que j'ai achevé la course, que la couronne de justice m'est réservée. C'est pas par arrogance, c'est pas par un but de sa personne que Paul a dit ça. Il dit, j'ai combattu, je peux m'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut, parce que j'ai fait ce que tu m'as demandé, parce que la couronne de justice m'est réservée. Maintenant, alléluia, oh, je peux quitter, parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Je suis réveillé. J'ai parlé de Johnny Hallyday la semaine passée. Puis une sœur m'a dit, d'après la réunion, tu sais, une semaine avant sa mort, il a vu quelque chose. Il a vu où il s'en allait. Puis il aurait dit, je veux pas aller là. Il a vu quelque chose de terrible et d'effrayant. Et cette sœur, lorsqu'elle a entendu qu'il avait vu ça, s'est mise à prier pour lui, pour que Dieu se révèle à lui. Une semaine après, il était mort. Est-ce qu'il l'a fait? Comment ça s'est passé? Dieu, c'est entre les mains du Seigneur. Mais il a vu quelque chose où il ne voulait pas aller. Il n'est pas parti. À ce moment-là, il n'était pas dans une paix de sa destination. Est-ce qu'on est dans la paix ce matin? Est-ce qu'on a cette paix de la part du Seigneur? Alléluia! De pouvoir dire ce matin, je combats le bon combat. Je suis à la bonne place. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je marche selon l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Ces hommes l'ont dit. C'est parce qu'on peut le dire. Ces hommes l'ont dit. Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Quand j'ai vu Jésus, je n'ai pas résisté. Il valait mieux pas non plus, mais je n'ai pas résisté à la vision céleste. J'ai tout souhaité. Fais ce que le Seigneur m'a demandé. J'ai renoncé au chemin de mort. J'ai renoncé à toutes ces choses. J'ai renoncé à mes avantages. J'ai renoncé à ma réputation. J'ai renoncé à tout ce que j'avais dans ce monde. Toutes ces choses étaient comme une perte parce que j'ai vu Christ. Et je n'ai pas résisté à cette vision. J'ai suivi, j'ai accepté parce qu'il pouvait résister. Paul aurait pu résister. Paul aurait pu dire non. Oh, j'en parle pas à personne. Je dis pas à personne ce que j'ai vu. Je garde ça pour moi. Je vais passer pour un fou. Je vais perdre tous mes avantages de Romain, de Juif, tout ce que vous voulez. Du sang et de rein, tout ça. Non. J'ai rien vu. Il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. Je n'ai pas résisté à ce que Dieu me demandait. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai décidé de lui obéir. Et l'Esprit de Dieu est sur moi. Désormais, la couronne m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut, parce que j'ai fait ce que tu m'as demandé. Alléluia! C'est ça un vrai Noël. C'est ça un vrai Noël. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous justifier. Pas nous justifier de l'impiété. Nous justifier pour marcher dans la piété du Seigneur. Et je termine avec cette pensée que j'ai eue dernièrement lorsque je pensais aux frustrations, aux déceptions qu'on peut vivre de nos proches et l'envie de tout lâcher, de se retirer de l'appel de Dieu et de s'éloigner. Et le Seigneur m'a donné cet exemple par son esprit. Jésus et ses 12 apôtres. Qui Jésus a choisi? Il a choisi 12 apôtres. Il y en a un qui l'a trahi. Il y en a un qui l'a vendu. Judas a assisté au miracle, ça, il l'a vendu. Pierre, le bipolaire spirituel, qui un jour était prêt à sortir son épée puis braver tout le monde, puis le lendemain de fuir partout. Il avait peur. Un jour, qui pouvait dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu, puis ensuite, à Dieu ne plaise, ça t'arrivera pas. Ce bipolaire spirituel, qui avait ses hauts, ses bas, c'était un de ses disciples. Deux de ses autres, genre que j'ai, avaient aucune pitié pour des gens. Ils voulaient faire descendre le feu du ciel, qui tombe sur le village des Samaritains, que tous, mère, père, enfant, grand-parent, meurent. Aucune pitié. C'est ses disciples. C'est ses disciples à lui. Thomas, qui a entendu, qui a vu, qu'on lui a dit, Jésus était ressuscité. Ne croyait même pas. On est rendu à 5 sur 12. Ça fait environ plus que 40% de ses disciples qui n'étaient pas forts. Puis on tombe à 100% lorsqu'à Gethsémané, ils l'ont tous abandonné. Est-ce que tu subis des frustrations? Des blessures, des mots que des gens disent sur toi, tout ça, puis au point que ça te frustre avec ça? Quand tu vois que Jésus, a continué d'aimer ses disciples, est mort pour eux, a donné sa vie pour eux, et il a fait en sorte qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Judas, s'il s'était repenti, aurait été aussi. Donc, il était remplacé par Matthias. Mais tous les hommes ont connu le baptême dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur les a remplis. Il les a aimés. Pense à ça lorsque tu vas te sentir blessé parfois. Ou qu'on ne t'a pas donné la reconnaissance que tu devrais, tout ça. Pense à ça. Pense à Jésus qui a vécu avec ses disciples et qui leur a accordé ses grâces spéciales. Ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse vivre cette paix intérieure. Amen. Que s'il arrivait quoi que ce soit aujourd'hui, tu laisses ton serviteur partir en paix. Je suis dans la bénédiction du Seigneur. Je suis pardonné. Prends le pardon du Seigneur, peu importe ce que tu as fait cette semaine ou que tu as vécu. Tu te sens peut-être à terre et tout ça. Mais accepte le pardon du Seigneur. Dieu te pardonne. Amen. S'il a pardonné à Pierre, s'il a pardonné à Thomas, s'il a pardonné à tous ses disciples, il nous pardonne aussi. Amen. Il a même dit à Pierre, il dit, m'aimes-tu? Puis, c'est sûr que Pierre lui a pas dit vraiment qu'il l'aimait comme il voulait, mais il dit, paie mes brebis. Pfiou. Tu vas diriger mes brebis. Même si tu m'aimes pas comme tu devrais, je t'appelle. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies aussi ce matin. Alléluia. Voulez-vous vivre ce Noël continuel? D'avoir cette paix? Oui, je vous souhaite un joyeux Noël. Mais je vous souhaite un joyeux vrai Noël. Je vous souhaite Jésus. Et Paul a dit, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. On peut être pris par les bras de Jésus, dans ses bras ce matin. Alléluia. Pas l'espérance d'une espérance pessimiste, négative, ou triste, ou plaignarde, mais une espérance joyeuse, vivante, ardente, bouillante. L'espérance de la gloire. Prions ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, tu nous as donné ces exemples dans ta parole. C'est pour qu'on puisse vivre ces choses aujourd'hui. Siméon, cet homme, Seigneur, qui était juste et pieux, cet homme qui attendait des promesses, la prophétie, tout ça, cet homme que tu as fait d'une grâce spéciale et que tu as accordé la paix. Alléluia. Tu veux faire la même chose pour nous, Seigneur. Tu veux qu'on puisse marcher dans la piété. Tu veux qu'on puisse, on est justifié, pardonné pour qu'on puisse, Seigneur, prier dans ces temps de fête aussi, dans nos familles, tout ça. Que ton nom soit sur nos bouches, que ton nom soit glorifié, que par nos vies, tu sois glorifié, que, Seigneur, les membres ne servent pas à l'impiété, qui ne servent pas à toutes sortes de choses qui ne seraient pas, oh, selon ta parole, mais au contraire, Seigneur, que tous nos membres, toute notre être, servent à glorifier ton nom, Jésus. Remplis-nous, Seigneur. On ne veut pas perdre la foi, non. Au contraire, Seigneur, gardez la foi, que tes promesses s'accomplissent. Que ton esprit soit sur nous ce matin. Alléluia. Et puisse nous diriger. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia.